LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
On est en 2015, c'est midi, le soleil est au zénith et l'eau est calme. Avec René Heuzé et mon ami caméraman, on se met à l'eau avec le groupe de cachalots, mais ils plongent jusqu'à 1000 mètres de profondeur pour aller chasser les calmars. Donc nous allions abandonner la plongée et remonter sur le bateau. Et on entend des clics, mais on ne voit rien. On regarde dessous, on regarde dessus, on est questionnant. Et tout d'un coup, on voit arriver un jeune cachalot mâle qu'on connaît bien, qui s'appelle Elliot, et qui remonte et vient vers moi. Et tout d'un coup, il se met à la verticale, tête en bas, et il se met à tournoyer sur lui-même, ce qui est une invite. Et puis cette invite s'est prolongée, et il s'est mis sur le dos, il a offert son ventre. Alors là, clairement, lorsque un cachalot fait ça dans un groupe de cachalots, c'est qu'il invite aux caresses. Et en général, les cachalots qui sont les maîtresses caresses s'approchent et se roulent les uns sur les autres et se caressent longtemps, longtemps et délicatement. Donc, j'étais un peu étonné de cette invitation par des attitudes sans équivoque. Et je m'approche, j'essaie de trouver la distance juste, 1 mètre, pas touché. Je ne sais pas comment répondre à cette invite. Et je me mets à basculer, moi aussi, je commence à faire une cabriole, et étonnamment, il fait la même cabriole. Je replonge, il plonge. Je bascule à nouveau, il bascule à nouveau. On échange. On danse. Ça a duré plus de 10 minutes. Quand un animal sauvage n'est pas bien, surtout quand il est puissant comme ça, et quand il a l'océan pour lui, il s'en bat. Là, non, il a insisté.
Comme un poisson sous l'eau. Élise Gruot, Agnès Catou. 4e épisode, fraterniser avec les cétacés.
Et puis tout d'un coup,
François Sarano, océanologue.
Il se met à entonner des expressions sonores qu'on appelle des codas. Et ici, une expression sonore à 8 clics. 2 petits clics serrés et puis 6 clics après, que nous avons bien étudié et dont nous avons démontré que c'était une demande de câlin, de caresse. Elliot était le maître du jeu. Il était celui qui était venu d'abord peut-être satisfaire sa curiosité et puis nous étudier, et puis là, sans équivoque, m'apprivoiser. Il voulait tisser des liens. Contrairement à ce qu'on peut penser, hein, c'est toujours l'homme qui veut inviter l'écureuil, le petit oiseau ou le lièvre à venir avec lui à l'apprivoiser. Eh ben non, c'était lui l'animal sauvage. On n'a pas le monopole de l'exploration et on n'a pas le monopole de l'envie d'apprivoiser d'autres espèces, de rentrer en relation avec l'altérité. Et donc c'est un renversement de situation bouleversant, bouleversant pour toujours.
Les cétacés sont parmi les plus grands êtres vivants de la planète et occupent tous les océans du monde. Longtemps craints et pourchassés par les humains, leur existence est encore aujourd'hui très menacée. Pourtant, croiser leurs regards si expressifs et se mêler à leur balai est une expérience dont on sort bouleversé. Des scientifiques et des plongeurs aguerris ont si bien appris à les approcher avec respect qu'ils sont maintenant capables de nous révéler leur monde intérieur. Aujourd'hui, nous sommes au large de Toulon en Méditerranée, dans le sanctuaire Pélagos, une zone maritime de protection des mammifères marins. Et nous partons à leur rencontre, les yeux grands ouverts.
Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, bonjour. Je vais vous demander de vous rapprocher, on va aller s'asseoir par là-bas.
Anne Settimelli, association Explore Préserve.
Bienvenue à Espace Mer.
Merci.
On a rendez-vous pour une sortie en mer, on sera accompagné de Véro.
Bonjour, messieurs, dames.
Qui est marin et qui sera sur le toit d'observation avec nous. Nous aurons également à bord Lorraine de Mira Setti et notre capitaine, qui est, c'est Lucas aujourd'hui, qui n'est pas encore là. Voilà. Donc on va essayer de voir si on peut rencontrer des cétacés, mais c'est absolument pas garanti.
C'est pour ça qu'on va vous mettre à contribution, on aura besoin de vos yeux et de vos observations également.
Donc pour les structures comme la nôtre, Espace-Mer, il y a un label qui a été créé qui s'appelle High Quality Whale Watching, qui permet d'avoir une démarche responsable quand on va aller observer des animaux. Ce sont des animaux sauvages et protégés, on ne va pas faire n'importe quoi. On n'a pas le droit de nager avec les cétacés. On n'a pas le droit de les nourrir. Et on va avoir une façon d'approcher les animaux très cadrée. C'est-à-dire que là, l'approche se fait tout en douceur de côté. On reste à 100 mètres et on essaie d'avoir le moins d'impact possible sur les animaux de façon à ne pas les déranger, pas déranger leur route et pas déranger leur rythme. Voilà. Les trois pout-pout-pout, c'est le bateau qui recule.
Qu'est-ce qu'on peut espérer voir alors ?
Alors, ce qui peut arriver aujourd'hui, puisqu'on a eu des orages très très forts il y a deux jours, on pourra croiser des déchets, d'où la petite épuisette pour les récupérer. Mais on peut aussi croiser des morceaux de bois sous lesquels peuvent s'abriter des poissons ou des tortues, mais aussi des cétacés, par exemple globicéphales. On peut les confondre vraiment avec une bûche. Donc n'hésitez pas tout de suite à me dire on a vu quelque chose par là ou par là. Donc, une fois sur l'eau, qu'est-ce qui peut se passer ? On peut voir ce genre de choses-là. Donc un splash. Là, comme ça, c'est très difficile à identifier ce que c'est. Donc, on peut rencontrer des thons. En ce moment, il y en a plein, donc des poissons qui font des gros splashs. On peut rencontrer des espadons. Alors ça, ce sont les diables des mers qui peuvent faire des splashs énormes, qui peuvent faire jusqu'à 2-3 mètres d'envergure, qui sont des poissons qui peuvent être très curieux, qui peuvent venir au bateau, qu'on peut voir par transparence, ou faire des loopings et monter très haut. Alors après, on va se concentrer sur les deux gros souffleurs, donc le cachalot et donc le rorcal. Je vous ai pas dit que le rorcal peut faire jusqu'à quand même 40 tonnes, mesuré jusqu'à 16 mètres. C'est un gros souffleur. On peut rencontrer dauphins. Donc les dauphins, si on en croise, ils peuvent être fort discrets. On peut ne pas les voir du tout. On peut voir quelques ailerons. Ou alors, ils peuvent être très joueurs et venir au bateau ou avoir des interactions au large. Ça sera plutôt les bleus et blancs. Voilà. Est-ce que vous avez tous de l'eau ? Crème solaire, casquette, etc. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour ça. Puis là, d'autant plus qu'il y a, voilà, il y a Lorraine, c'est une scientifique à bord. Il faut en profiter.
Fabienne Delfour, vous êtes chercheuse en éthologie et vous êtes spécialiste des cétacés et notamment des dauphins. Comment est-ce qu'on peut se représenter ce que c'est que de vivre comme un dauphin ?
Il faut imaginer être un être essentiellement acoustique, c'est-à-dire le monde qu'on va construire va être bâti à partir essentiellement de perceptions sonores. C'est une sensorialité qui nous est familière et étrangère en fait. C'est pour nous humains d'autant plus compliqué qu'on est des êtres qui fonctionnent beaucoup avec la sensorialité visuelle. Donc on utilise beaucoup la vision pour prendre des informations dans le monde qui nous entoure. Et le dauphin va, lui, se servir de l'audition pour prendre les informations dans le monde qui l'entoure. Et pour nous humains, cette gymnastique intellectuelle est compliquée à faire. C'est-à-dire occulter la vision, essayer d'imaginer comment on peut construire un monde uniquement à partir de sons.
Et quels sont le dauphin perçoit-il et quels sont le dauphin émet-il ?
Alors, il va entendre une très grande gamme de sons. Il faut savoir que les sons transitent beaucoup plus vite dans l'eau que dans l'air, à peu près 5 fois plus vite. Son corps aussi est un réceptacle à ces vibrations sonores. Donc, il va vibrer aussi avec tous ces sons qui lui arrivent. Il va entendre des sons biologiques qui sont là dans son habitat qu'est l'océan. Il va entendre aussi des sons anthropologiques de plus en plus, des bateaux, des forages, nos activités humaines qui sont extrêmement prégnantes aujourd'hui. Et donc, il va percevoir tout ça et il va construire un paysage sonore à partir de ça.
Dauphin bleu et blanc.
Alors, là, appuyez sur la marche. Oups là.
Globicéphale. Cachalot.
fait sous consigne de sécurité, il est interdit de courir à bord du bateau, également interdit de se pencher sur le
bateau,
et strictement interdit de nourrir les poissons. Et sur ce, je vous souhaite une bonne traversée.
Baleine à bosse. Ces vagues, est-ce la crinière des chevaux fous ou le désir ardent d'un monde tendre et doux? Où courez-vous, belles indociles? Elle rit. Vers le dernier rivage, nous glissons dans la nuit des roues. Roubaïat de la mer, Sayed et Gab.
Par là, dans la ligne claire, là. J'en ai vu 3-4 sortir. Hein.
Avec les trois observatrices de cétacés, Anne, Véronique et Lorraine juchées sur le toit du bateau, nous naviguons vers le large de la presqu'île de Gien, en espérant rencontrer quelques-uns des mammifères marins présents en Méditerranée. Dauphins communs, grands dauphins, dauphins bleus et blancs, dauphins de Rissot, globicéphales noirs, baleines à bec de Cuvier, cachalots, et le rorqual commun, qui est le deuxième plus grand animal au monde après la baleine bleue. Et nous poursuivons la découverte de leur monde à l'écoute des récits des humains qui les ont connus et étudiés de près.
Ouais, ils sautent là.
Ils jouent dans la vague.
Lorraine Trudel, association Miraceti.
Bah là, au niveau de la distance, on n'est pas trop mal.
À 10h, ils jouent dans la vague.
On a les dauphins bleus et blancs. Un peu à l'avant du bateau, mais on en a aussi un peu derrière. Donc c'est tout un groupe étalé.
Petite taille.
1m80, 2m.
Ouais, c'est la taille d'un humain. Tu vois pas mal, hein, sur le tout.
Après, tu vois à côté un globi, 4m, 6m.
Oui, c'est vrai qu'à côté, c'est ouais. Beaucoup plus imposant.
Là, vous pouvez. Alors, on a à nouveau des dauphins bleus et blancs. C'est sans doute le même groupe qui est très étalé.
Ah, je crois que j'en ai vu un à 1h, là.
Ils sont pas en mode communicatif.
Non, ils sont en mode.
J'ai envie de jouer. Ils sont en mode repos.
Ils sont en
quoi.
Mode
repos, tranquillement, déplacement.
On va peut-être les laisser tranquilles et aller voir si on voit d'autres animaux un peu plus loin. On va reprendre notre route vers Sissier.
Les dauphins sont des animaux sociaux. Comment est bâtie la société des dauphins, Fabienne Delfour?
Alors, c'est une société ultra moderne. Il n'y a pas un chef, il y a des leaders. Et ces leaders vont se mettre en place en fonction des situations que le groupe va rencontrer. C'est-à-dire, c'est l'animal le plus expérimenté dans la situation à laquelle il doit faire face qui va prendre le leadership. En général, c'est des animaux qui ont de l'expérience, donc ce sont des animaux âgés, mais ça peut être aussi bien des femelles que des mâles. Et il y a une alternance comme ça des rôles. Donc en fonction des situations, il va y avoir des regroupements et puis des départs d'individus. On appelle ces sociétés de type fusion-fission. Et à l'intérieur de cette société, il y a deux organisations en parallèle. Il y a les mâles, dès le plus jeune âge, des adolescents qui vont construire des affinités très fortes. Donc on a des dyades de mâles qui vont être pérennes tout au cours de la vie de ces dauphins-là. Et on a des alliances de dyades, donc on a une structuration des mâles autour de ces associations de duos. Chez les femelles, c'est tout à fait l'opposé. C'est-à-dire, certes, elles ont des copines, mais elles sont très opportunistes, c'est-à-dire elles sont gestantes, elles vont rester avec les femelles gestantes. Elles sont des femelles suitées, c'est-à-dire elles ont des bébés qui les suivent. Et elles restent avec ces femelles suitées. Si par malheur, elles perdent leur bébé, elles repartent avec le groupe des célibataires. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de copines à vie, contrairement aux copains à vie qu'il y a chez les mâles. Et donc, elles ont la capacité de construire une sociabilité qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus plastique, qui les rend d'autant plus robustes par rapport aux mâles, parce que dans ces duos de mâles, s'il y en a un qui disparaît, l'autre est extrêmement vulnérable.
Il y a des enfants.
11h. Pas très loin, 11h. Ils sont là, à 1h, il y en a un qui vient de sortir. 3, 4, 5. Ils sont moins 5, là. Tout en bleu et blanc. Ouais. Stop, tu y es, là. Vas-y.
Donc là, il faut que tu te remettes parallèle à eux.
Ouais, tourne vite.
Donc on a des dauphins bleus et blancs.
On va leur couper la route.
Alors on se met parallèle à eux, tranquillement. Alors essayez de rester un tout petit peu silencieux, s'il vous plaît, pendant les observations, qu'on puisse communiquer déjà entre nous.
Ils sont nombreux, hein.
Et je me demande s'il n'y a pas des petits, là, non?
Ouais, j'ai l'impression que...
Alors regardez, observez bien, si vous voyez deux ailerons, dont un plus petit côte à côte, c'est éventuellement une femelle avec un tout petit. Estime à combien, un groupe? Une trentaine?
Ils ont changé un peu de tête, ils sont venus sur leur car. Bien, on les a perdus de vue.
Vous avez vu, Véro?
Oui, j'ai vu, j'ai juste eu le temps de les voir disparaître.
Ouais, moi aussi, hein.
Moi, je cherche le cachalot.
Mère, tu en caches des choses, dis. Des perles en liberté, des étoiles endormies et les vagues fougueuses. Puis, dans l'abîme, rien. Tout est serein. C'est moi qui vis en toi, mère, ou toi qui m'envahis?
Un cachalot,
François Sarano.
C'est monstrueusement délicat. C'est monstrueusement léger. C'est monstrueusement aérien. C'est une énorme saucisse qui peut faire 15 mètres. Les grands mâles font 15 mètres, 18 mètres, avec une énorme tête sans forme. Ça n'a aucune forme. C'est une sorte de gros parallélépipède un peu tordu parce qu'il a une narine, une seule narine sur le côté avant gauche. Le nez a été étiré très loin. Bref, ça n'a aucune élégance et c'est l'animal le plus gracieux qui soit. Quand il est porté dans son élan, il est encore une fois gracieux comme un papillon et aussi aérien qu'une chauve-souris. Ceux qui disent que les cachalots pèsent 50 tonnes n'ont jamais rencontré de cachalot. Parce qu'un cachalot ne fait 50 tonnes que quand il est mort, cadavre, ressource, viande, sur le pont d'un baleinier. Mais dans son monde, le cachalot, il est aérien, gracieux et délicat. Et très, très, très attentif aux autres. René et moi, jamais il ne nous a effleurés. Et pourtant, Dieu sait si souvent on l'a contraint entre nous deux, parce qu'il est très grand et nous, on se rendait pas bien compte de tout ça. Et alors, il s'est plié, il s'est tordu, contorsionné pour éviter le plus petit effleurement. Et ça, c'est extraordinaire. On n'a pas l'habitude de voir des animaux qui ont cette taille-là. Un grand mâle qui malheureusement a été tué au cours de la chasse faisait près de 26 mètres. La baleine bleue dépasse ça, 30 mètres. Sa taille est telle qu'il faudrait être à l'extérieur, dans l'air, pour le voir véritablement, parce que la visibilité de l'eau, toujours un peu trop, masque un peu la caudale lorsqu'on est près de la tête, ou la tête lorsqu'on est près de la nageoire caudale. Quand il est mort à l'extérieur, il est avachi, c'est plus rien du tout. Et donc c'est difficile d'avoir une idée véritablement de ce qu'est ce grand animal.
Lorraine, on se trouve où là, actuellement en mer ?
Là, on est en face du Cap Sissier, à côté de Toulon, et on a un canyon, c'est comme les canyons terrestres, mais sous l'eau. C'est une faille perpendiculaire à la pente continentale, et qui se trouve sous l'eau, et donc c'est des zones qui sont relativement profondes, donc qui sont particulièrement appréciées de différents cétacés, notamment les cachalots, qui se nourrissent donc de céphalopodes principalement. On peut voir aussi des globicéphales qui se nourrissent aussi de ce type de proie. Anne proposait qu'on fasse une écoute à l'hydrophone. Donc c'est un microphone qu'on va mettre sous l'eau, donc un hydrophone, pour voir s'il y a un cachalot dans le coin qui est sous l'eau en train de chasser. Malheureusement pour nous, on n'a pas de cachalot, mais bon, on ne perd pas espoir, on peut voir, voilà, on va continuer notre route et puis on va voir ce qu'on trouve.
Les cachalots plongent à partir de, allez, 100 mètres de profondeur, on entend les premiers. Donc les cachalots commencent à émettre des clics pour essayer de localiser la présence des calmars qu'ils vont chercher pour se nourrir. Et en général, ils descendent jusqu'à 600, 700 mètres la nuit, et plus profond parfois la journée, parce que les calmars font des allers-retours entre les profondeurs et la surface pendant la nuit, et ils les trouvent vers 800 mètres de profondeur. Ah, et tout d'un coup, l'un des clics fait entendre un écho. Alors, le cachalot précise la position du calmar en accélérant ses clics et en écoutant de plus en plus vite les échos. Et puis ça va faire... Silence. Il mange. Il cherche. Il a encore mangé. Mais mieux. Ça, on n'a pas pu l'enregistrer dans l'océan Indien, mais dans la Méditerranée, on mène aussi une deuxième étude sur les cachalots. On a montré que les cachalots qui plongeaient ensemble alternaient leurs clics. Et ils les alternaient parce que chacun profite de l'écho du clic que son compagnon a émis. Et ainsi, ils ont une vision, parce qu'ils se séparaient, parfois de 500 mètres, une vision stéréoscopique des proies qui sont devant eux. Les cachalots chassent en meute, comme les lions, profitant ensemble de leur capacité d'écholocation. Je te pointe du doigt le calmar qui est là, parce que toi tu entends l'écho aussi de mon clic que j'ai mis. Ça c'est formidable.
C'est les clics émis par les cachalots qui chassent dans les profondeurs.
Et ils mangent par jour 450 kg de calmars. Des petits calmars qui peuvent faire un kilo. Et puis parfois des très gros, 40 kg, 50 kg. Et des géants, 450 kg. Et donc après cette chasse qui va durer une petite heure, elle remonte en surface. Il souffle en surface. Une pleine respiration et puis il va y avoir... une quarantaine de respirations et puis à nouveau une plongée dans les profondeurs. En tout, une quinzaine de plongées par jour. Donc c'est long, hein, c'est on va dire 15 heures qui sont consacrées à chasser. Mais pas toujours en continu. Et puis, tout le monde remonte. Grande respiration en surface. Et tout le monde se met à la verticale. Et descendent. Verticale, tête vers le ciel, à 20 mètres de profondeur. C'est le dortoir. Les cachalots dorment, des monolithes. Ils sont légers, des menhirs suspendus. C'est incroyable. Et les cachalots sont là, les uns à côté des autres. On peut nager entre eux. Comme dans un temple. Et quand on s'approche, souvent le petit œil s'ouvre et se referme. Ils savent qu'on est là. Ils savent que nous sommes bienveillants. Ils nous acceptent. Ils continuent à dormir. Puis de temps en temps, l'un d'eux lâche quelques bulles qui remontent en surface. Puis un autre remonte sans un mouvement à la verticale. Perce la surface. prend une inspiration, ferme son évent et redescend.
Lorraine, qu'est-ce que vous avez pu écouter à l'hydrophone, là, sous le bateau ?
Alors, déjà, beaucoup le bruit de surface de l'eau, donc c'est un peu difficile parce qu'on a des bruits parasites sur l'hydrophone, mais on entend un cachalot, au moins un, voire deux, en fait. C'est-à-dire qu'on entend des clics, alors qui est assez loin, quand même. C'est pas fort, mais c'est clic, 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 comme ça. Alors, je ne fais pas très bien le cachalot. Il y en a d'autres qui le font mieux que moi, voilà. Et potentiellement un second, c'est-à-dire qu'il y a ces clics qui sont en décalage et donc ça indiquerait qu'il y en a deux qui sont en train de s'alimenter en ce moment en profondeur.
Là, on regarde la mer, voilà, c'est uniforme. Aujourd'hui, c'est très calme. Et là, de se mettre ça sous l'eau et de se dire, et voilà ce qui se passe, et d'imaginer un cachalot en train de chasser, en fait. Et ça, c'est trop, trop bien. C'est toujours, effectivement, une émotion particulière, puisqu'on peut faire marcher son imagination rien qu'avec le son.
S'il y avait un seul mot à retenir des cachalots, pacifiques. Le deuxième, je dirais, solidarité, entraide, altruisme, et puis société, dans le vrai sens société, des êtres qui s'unissent pour être plus forts ensemble. Et bien, c'est ce que font les cachalots.
La vie sociale chez les cétacés, c'est incroyablement riche.
Jean-Luc Jung, biologiste moléculaire. Spécialiste de la génétique des animaux sauvages.
Tous les ans, on découvre de nouvelles constructions sociales, organisations sociales. Et d'une espèce à l'autre, on a des organisations sociales qui sont très différentes. Avec quelques points clés, chez quasiment tous les cétacés, l'élément central, c'est les femelles. Chez les cachalots, on a des groupes très stables, des lignées matrilinéaires, où on a donc les femelles adultes et puis les jeunes. Ces groupes restent ensemble sur des générations. Par contre, les mâles adultes, c'est Moby Dick, hein, c'est ceux qui vont aller chercher leur nourriture dans les pôles. On retrouve un système un peu similaire chez les orques, mais là, les mâles restent dans les groupes, un peu similaire au sens stabilité des groupes, très très stable.
Et vous, Jean-Luc Jung, vous observez ces cétacés en plongeant, ou plutôt depuis les bateaux? Enfin, quelle est votre méthode d'observation des grands cétacés?
Alors moi, j'ai tiré le mauvais lot là dans tout ça. Moi, je suis dans le laboratoire avec ma pipette et devant mon ordi. Il faut être très très longtemps sur le terrain pour bien connaître, pour identifier les individus, pour pouvoir faire le lien entre les comportements, les individus, les groupes sociaux. Et ça va faire maintenant, je pense, 5 ans qu'on travaille avec Longitude 180, qui est l'association de François Sarano et avec Véronique Sarano. Et donc eux, ils sont depuis, ça va faire 10 ans maintenant qu'ils sont à l'île Maurice, que tous les ans, ils vont observer le même groupe de cachalots et que tous les individus leur sont connus. Et la méthode qu'on a mis au point avec eux, enfin c'est eux qui l'ont mis au point, et nous on a fait le traitement après au labo, les cachalots ont des fragments de peau qui se détachent spontanément. Et donc ils prélèvent ces fragments de peau sous l'eau en ayant identifié les individus et donc ils nous envoient après ces fragments de peau et nous donc en analysant l'ADN des cellules qui viennent de ces morceaux de peau, on peut identifier les liens familiaux. Alors on a décrypté comme ça toute la structure familiale d'un groupe social de cachalots de l'île Maurice et ça c'était une belle première mondiale, hein. Il y avait des prélèvements non invasifs, individus spécifiques que l'on pouvait analyser comme ça et de quasiment tout un groupe, c'était vraiment du jamais vu.
On est dans un clan de cachalots.
François Sarano.
Qui compte 17 femelles adultes et 3 jeunes mâles. Et ce clan de cachalots semble dirigé par une femelle dont la gueule est tordue et nous la baptisons Irène Gueule Tordue. Et petit à petit, nous découvrons une chose. Ces 3 jeunes qui sont délaissés par leur mère lorsqu'elles vont chasser dans les profondeurs à plus de 1000 mètres, se retrouvent en surface, dans le grand bleu, à la merci des prédateurs. Non, pas à la merci des prédateurs. Il y a toujours avec eux une femelle, la plus jeune des femelles adultes, qu'on a baptisée Germine, et qui les surveille, et qui les protège. et qui les réprimande un peu quand ils se bousculent un peu fort.
Et elle, c'est une femelle qui n'a pas de petit ?
Alors, à ce jour, Germine n'a pas de petit. Là, on en est quasiment sûr, puisque nous l'avons vue pour la première fois, elle avait 4 ans, elle ne peut pas avoir de petit à cet âge-là. La maturité sexuelle des femelles chez les cachalots se situe autour de la 10e année, et en gros, une femelle peut avoir un petit entre 10 et 16 ans, dit-on, mais je pense que c'est beaucoup plus tard, bon, disons 13 ans. Et année après année, on s'aperçoit que cette femelle, Germine, voit agrandir sa crèche. 3, 5, 6, 7, 8. Et pendant des années, jusqu'à cette année, 2024, elle garde cette crèche qui change. Elle voit partir des jeunes qui sont devenus trop grands. Elle ne revoit pas toujours ceux qu'elle a eus dans la crèche l'année précédente, parce qu'il y a quand même beaucoup de cas chez les jeunes cachalots. La mortalité infantile est forte. Et elle est là. C'est la babysitter. C'est sur elle que repose la vie du clan. C'est elle qui surveille la crèche et qui préserve les petits. C'est elle qui est le centre du monde des cachalots. C'est formidable! C'est formidable! Là, c'est Germine, la babysitter, qui garde une petite crèche, là, avec Yulia, qui a 1 an, et la petite Varuna qui a 10 jours. Alors là, on voit Yulia qui passe à côté de Germine, Myriam qui apparaît, qui disparaît de l'écran, qui revient vers Germine pour la caresser encore, tête contre tête. C'est très câlin, les cachalots. Et je me retrouve entre les deux, coincé entre la petite Myriam et Germine. Mais même la petite Myriam, elle fait quand même entre 3,50 m et 3,80 m. C'est un bébé, mais beaucoup plus gros que moi. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de heurts. Tout est délicat. Et là, on voit la babysitter Germine qui ramène la petite Myriam à sa maman Issa. Parce que sa maman est revenue des profondeurs où elle a chassé et maintenant, elle va probablement l'allaiter.
On sait que dans les groupes sociaux, on a des jeunes mâles et que dès qu'ils sont adolescents ou jeunes adultes, ils s'en vont tout seuls. Ils sont solitaires au départ. Ils partent dans les zones polaires ou subpolaires, se nourrir et puis ils reviennent de temps en temps se reproduire. On a pu retrouver dans le groupe de l'île Maurice des frères et sœurs vrais, même père, même mère. Ça veut dire là qu'obligatoirement, le même cachalot mâle est revenu au même endroit et qui s'est en plus reproduit avec la même femelle, ce qui est très très rare. Donc là, on a commencé à mettre en évidence une fidélité sociale.
Et ça, c'est grâce à l'étude de l'ADN qui vous donne une information absolument fiable sur l'appartenance familiale.
Alors, oui et non. Oui, c'est grâce à l'ADN, mais c'est vraiment grâce à tout cet ensemble. Sans le catalogue des individus, sans la méthode de prélèvement, sans le fait d'avoir été pendant des années sur le terrain au même endroit, de prendre des photos tous les ans de manière un peu inlassable, hein, d'aller plonger, d'aller voir les cachalots, de savoir que tel mâle est déjà venu il y a 3 ans et qu'il revient, voilà, et de noter tout ça. Et ensuite les échantillons qu'on analyse au labo, voilà, c'est vraiment cet ensemble. Vous voyez, les mêmes échantillons, sans qu'on ait d'informations sur les individus, on n'aurait pas pu identifier les individus, on n'aurait pas pu faire le lien avec les mâles, etc.
Elliot, notre grand jeune mâle, qui cette année a 13 ans, on le connaît depuis sa naissance en mars 2011, eh bien ce jeune mâle aurait dû quitter le clan familial il y a 3-4 ans, comme tous les autres. C'est la règle, c'est la moyenne. Eh bien Elliot, il est toujours là. Pourquoi ? Parce que notre groupe, le clan d'Irène, gueule tordue, eh bien, il s'est séparé en 2 groupes. Celui d'Irène et celui de Vanessa, sauf qu'il n'y a qu'une babysitter, Germine, qui est restée dans le groupe d'Irène, et l'autre. Mais il y a aussi des petits, et il n'y a pas de babysitter, il n'y a pas de femelle qui ait pris la charge de protéger la crèche. Eh ben, c'est Elliot et Tache Blanche, les deux subadultes, qui ont gardé la crèche. Tache Blanche est décédée, Elliot est resté. Et donc, il s'est retrouvé à ne pas pouvoir quitter son groupe, son clan, parce que les circonstances l'ont maintenu ici, dans les eaux tropicales. Et tout ça veut dire qu'il n'y a, encore une fois, que, comme chez nous les humains, de l'anecdote. L'histoire humaine est une histoire d'anecdote, c'est anecdotique. Pourquoi c'est très important? Parce que, chez les animaux, on a toujours considéré que comme c'était des êtres interchangeables qui répondaient de façon standardisée aux stimuli du milieu, il n'y avait pas d'anecdote. C'était toujours la même chose, la même réponse au même stimuli. Pas du tout. Et nous avons toujours étudié les animaux, et de plus en plus aujourd'hui, statistiquement. En deux mots, tout ce qui sort de la moyenne était rejeté, éliminé. Parce que ça n'est pas représentatif. Parce que c'est parfois, les scientifiques disaient, contre nature. Vous êtes débile ou quoi? Vous le voyez, c'est pas contre nature, c'est la nature. C'est dans la nature. Et donc, c'est comme ça que les animaux comme Elliot, qui sont les plus extravertis, les plus explorateurs, sont juste éliminés des statistiques. Ils ne représentent pas ça. Donc, notre manière mathématique, statistique, de vouloir analyser la vie est une mauvaise manière. Bien sûr qu'il faut des règles statistiques pour voir ce qui se passe en gros et en général. Mais il faut comprendre que la vie n'est que anecdotique. Il n'y a que des singularités. Ça, c'est fondamental. Mais il a fallu, pour cela, dans mon cas particulier, avec Véro, qu'on étudie pendant 10 ans ces cachalots. Et qu'on se rende compte que, comme chacun d'entre nous humains, ils avaient encore une fois leur histoire propre.
Énorme de voir un saut de cachalot. Extraordinaire. Et là, vous voyez celui qui est à côté, là. Enfin, vous voyez son dos, en fait.
Attention qu'il n'y ait pas un petit avec, quand même.
On va vérifier qu'il n'y en ait pas deux l'un à côté de l'autre. Donc là, on va pouvoir éventuellement refaire une écoute si on voit qu'il... Ah, saut. Saut. Derrière, saut. Mais vous avez une chance de folie, hein. Et en plus, Anne l'a eu en photo, donc vous aurez un beau souvenir. C'est génial. Franchement, c'est une chance énorme. Moi, j'en avais pas revu depuis très très longtemps. Un saut de cachalot.
Il approche, hein. Il approche.
Non. non, je pense que ça va, t'inquiète. Ah oui, il est derrière. Et il a sondé. Et voilà, il a sondé.
Parce que là, on voit que ça...
Il a sondé, il était derrière, donc soit il a fait une accélération pour refaire un saut, soit il a vraiment sondé pour repartir en plongée.
Moi je sais pas s'il n'y a pas un petit avec.
Encore un saut.
Il s'est très
bouge pas, tu restes comme ça. Tu restes là comme ça, t'es statique. On va essayer de profiter du spectacle.
Je l'adore folle. Je l'adore calme. Je voudrais qu'elle soit moi. Ou moi être sa lame. La mer, d'un air charmant, m'a chuchoté. Vous en êtes tous des mers. Il suffit d'être, chères âmes.
Après la surprise et la joie intense provoquée par le spectacle des cachalots sautant autour de notre bateau, l'euphorie a laissé place au silence. À bord, tout le monde s'est tu, tandis que nous faisions route vers le port, comme si chacun méditait à propos de sa place d'humain et savourait l'émerveillement d'avoir été en contact avec ces animaux sauvages qui peuplent notre planète commune.
Fabienne Delfond, vous avez pu mener vos recherches sur les dauphins dans différentes conditions. Il y a eu un temps dans les parcs zoologiques. Et puis, il y a tout le travail que vous avez mené dans le milieu naturel. Et là, vous avez expérimenté la plongée avec les dauphins et de pouvoir les observer dans leur milieu. Alors, comment est-ce que c'était pour vous et qu'est-ce que ça vous a permis de sentir du monde dauphin, d'être immergé près d'eux?
Quand j'ai commencé en cétologie, c'était à Vancouver, dans un laboratoire qui faisait de la bioacoustique avec les orques. Et mon directeur d'études, qui s'appelait John Ford, qui a travaillé sur les dialectes des orques, m'a montré l'importance d'aller sur le terrain et de vivre les situations que vivaient les animaux pour pouvoir comprendre ce qui se passait. Donc, il y a une trentaine d'années, on travaillait avec des hydrophones et on prenait beaucoup de diapositives. Ça m'a plu, mais ça m'a aussi énormément frustrée parce que ce que j'avais à ma disposition, c'était certes une banque de sons énorme avec des clichés, mais j'arrivais pas à mettre un son sur un comportement. Et comme c'était des animaux aquatiques, je me suis dit que le mieux, ça serait de m'immerger. Et j'ai eu cette opportunité-là, aux Bahamas, avec Denise Herzing. C'est la Jane Goodall des dauphins, qui a depuis 40 ans. Chaque année, elle met en place des missions. Et pendant des semaines, on va vivre sur un catamaran, un peu hors de tout. Et nos journées et nos nuits vont être organisées autour de ces rencontres avec les dauphins. Et le cadeau qu'est de travailler avec Denise Herzing, c'est qu'elle a identifié les dauphins. Elle est capable de vous dire qui est la fille de qui est amie avec qui. Et donc tout d'un coup, on n'a pas un groupe de dauphins, on a un ensemble d'individus avec des histoires particulières, avec des biographies. Et le fait de vivre ces rencontres-là, ça donne un récit qui est plus incarné aussi, c'est-à-dire on peut témoigner, presque j'allais dire sensoriellement, de ce que vivent les dauphins. Ça a tout changé pour moi. Donc, aller à l'eau avec les animaux et espérer construire des rencontres, ça ouvre en fait une porte sur presque l'intimité des animaux.
Stéphane Mifsud est détenteur de plusieurs records du monde d'apnée, qu'elle soit statique, dynamique, avec ou sans palme. Une pratique qui l'a amené au plus près des poissons et mammifères marins. Nous le rencontrons à bord de son voilier dans le port de Hyères.
L'apnée, ça m'a apporté ma vie, mon métier, mais surtout une capacité à tenir sans air comme peu de terriens peuvent l'avoir. Et donc, ça me donne un accès à ce qui se passe sous l'eau. Et ça me plaît beaucoup, d'aller communier un peu plus longtemps avec la nature et les poissons. Jacques Mayol, qui était mon référent, j'avais eu un super bouquin quand j'étais petit. Jacques Mayol, c'était 5 minutes en apnée. Aujourd'hui, on n'a plus que doublé la mise. Eh bien, la relation avec les mammifères marins a été la clé. Puisque un mammifère marin, lui, son cœur bat à 60 pulsations environ quand il nage à la surface, pour passer à 6 pulsations, voire à 4 pulsations pour le phoque de Weddell. Et donc, nous, êtres humains, quand on a grandi dans le ventre de notre maman, on avait certains réflexes qu'on a oubliés en tant que terrien. Et avec le temps et beaucoup de travail, j'ai réussi à remettre ces réflexes un petit peu en route pour avoir des mécanismes qui sont semblables à ceux des mammifères marins.
Ça veut dire que votre cœur se ralentit quand vous êtes en apnée ?
Oui, effectivement. Un être humain normal bat entre 60 et 75 pulsations cardiaques par minute. Moi, déjà, à la base, j'étais aux alentours de 40-45. Avec l'entraînement, je suis descendu plutôt à 35. Et pendant le record, je suis resté près de 7 minutes en dessous de 18 pulsations par minute. Moi, on m'appelle l'homme-poisson, mais eux sont des mammifères marins. Ils ne pratiquent pas l'apnée, c'est les champions de l'apnée. Un dauphin, ça tient environ 11 minutes sous l'eau. Moi, je tiens 11 minutes 35. Sauf que moi, 11 minutes 35, je n'ai même pas cligné d'un œil ni un sourcil. Lui, il a fait 15 km. Donc, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Le cachalot, c'est la quintessence, par exemple, des capacités sous-marines. Il est capable de descendre à près de 2000 mètres de fond. Il est capable de transformer l'huile qu'il a dans sa tête. Il a refroidi pour descendre et ça lui fait comme un plomb, comme une gueuse pour descendre. Quand il arrive au fond, il la réchauffe avec son sang pour remonter. C'est des animaux qui sont capables de stocker dans leur sang et dans leur rate de l'oxygène. Enfin voilà, ils ont des capacités largement plus adaptées que nous à l'apnée. Et c'est vrai que de les observer et d'essayer de faire comme eux, ça nous apprend un petit peu. J'ai plongé avec des cachalots et j'ai eu plein d'expériences où des animaux s'approchent de vous et ils vous envoient des ondes, c'est-à-dire ils vous scannent. On oublie une chose, c'est qu'eux, ils sont là depuis 65 millions d'années. L'être humain, je ne sais pas, 3, 4. Et donc, l'évolution qu'il a, elle est largement supérieure à la nôtre. Ils ont des moyens de communiquer. Ils ont des moyens d'analyse qui sont largement supérieurs. Ça, je ne l'ai pas lu dans les livres, mais vous le ressentez réellement. Vous êtes face à un cachalot, vous sentez une vibration comme si vous étiez dans un concert face à une énorme enceinte de musique. Et donc, là, il y a un réel scan qui part du pied, qui monte à la tête et qui redescend. Et là, moi, je suis certain que l'animal sait scanner vos intentions, votre rythme cardiaque, qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. C'est des animaux d'une bienveillance et d'une douceur incroyable. Comme tous les animaux, d'ailleurs, ou les humains. Quand quelqu'un est sympa, il vient vers vous et il vous donne des signes de bienveillance. Quand il n'a pas envie, bah, il faut le décrypter. Certains cachalots, et souvent, hein, la plupart du temps, n'ont pas envie de contact avec l'humain. Et ça, il faut absolument le respecter. Mais une fois que vous êtes dans l'eau et que c'est eux qui viennent au contact, on devient peut-être un trait d'union entre la terre et la mer. Et on a vraiment moyen de communiquer avec tous ces grands animaux.
Là, ce sont des dauphins, pas des canards. Fabienne Delfour, cétologue, autrice du livre « Dans la peau des dauphins ».
C'est deux groupes de dauphins qui se font face. Et en fait, ces squawks, ce qu'on appelle squawks, sont vraiment intenses. On va retrouver ça dans des bagarres. Les bruits aussi de bulles qu'on entend, c'est parce qu'on est immergé, mais il y a un mouvement pas possible de dauphins. Donc il y a ces coups de caudale, etc. Ça, c'est extrêmement violent. Et au début de la séquence, vous voyez, on entend que c'est pas très très bien organisé. Et puis après, il y a vraiment des squawks qui sont très synchronisés. Et là, on voit qu'il y a aussi une synchronisation comportementale, c'est-à-dire les animaux produisent les mêmes comportements en même temps. Et en fait, ça crée comme un super individu qui fait super peur aux autres. Et donc, on a un témoignage de ces émotions chez les animaux, témoignage sonore. Qu'on ressent particulièrement dans ce type de rencontre, c'est puisque vous aussi vous êtes immergé, votre corps va ressentir toutes ces vibrations créées par les productions sonores des animaux et par les mouvements des animaux. Donc on vit aussi corporellement ce moment-là. Aujourd'hui, on parle de sentience animale, c'est-à-dire le fait de considérer les animaux pas uniquement comme des êtres biologiques dotés d'un système nerveux, mais ce sont des animaux qui ont des biographies, qui ont des désirs, des attentes particulières. Et il y a tout un nouveau panel de recherches qui montre aussi que les animaux ont des émotions. Chez les dauphins, oui, on s'est aperçu qu'on pouvait avoir des animaux optimistes, pessimistes. Par exemple, il y a beaucoup de cétologues qui témoignaient de femelles qui nageaient avec le cadavre d'un bébé dauphin. C'était des mères qui avaient perdu leur nouveau-né. Et donc, ces mères devenaient apathiques. Et cette apathie, cette volonté de s'écarter du groupe aussi, le fait de refuser de s'alimenter, c'est ce qu'on observe chez des animaux sensibles qui vivent des deuils. Mais aussi, on a des manifestations d'émotions positives. Et par exemple, chez les dauphins, il y a ce qu'on appelle le victory squeal. Et donc, c'est un peu comme si nous, humains, quand on a ce qu'on veut, on dit « Ah yes !» Ben, le dauphin, il va faire pareil. Donc, des moments de chasse où il a finalement pu attraper la proie qu'il poursuivait, il y a ce sifflement ou cette vocalisation qui est mise à ce moment-là. Par exemple, des animaux qui vont nager de manière très très proche et de manière synchrone. Ça peut être de la réconciliation, ça peut être un témoignage d'une amitié profonde. Donc en observant le comportement, en enregistrant les productions sonores, on a comme ça des manifestations, des états affectifs des animaux.
Fabienne Delfour, les exemples que vous donnez montrent que non seulement les dauphins expriment des émotions, mais aussi qu'ils éprouvent des sentiments. Et on en vient ainsi à la notion de culture chez ces animaux.
Oui, ça a été mis en place, enfin en évidence chez plusieurs animaux terrestres, mais chez les animaux marins, et donc chez les dauphins, il y a la mise en place de certaines cultures. Ce sont des façons de vivre qui vont être transmises de génération en génération, pas par la génétique, mais par un apprentissage social. Et donc, on a par exemple des pêches de dauphins qui sont mises en place dans des endroits particuliers dans le monde où on a des stratégies particulières pour chasser. Et ça, on s'aperçoit que, effectivement, c'est transmis de génération en génération. On a la fameuse pêche à l'éponge en Australie où ce sont des femelles qui apprennent à leurs petits à pêcher les éponges et à mettre cette éponge sur leur rostre pour se protéger. Quand les dauphins vont farfouiller dans les rochers, souvent abrasifs, ça les évite de se couper. Ça aussi, c'est transmis génération après génération. Donc, ces femelles qui transmettent cet apprentissage particulier transmettent aussi leur ADN à leur descendance. Donc, on aurait peut-être une évolution génétique et aussi culturelle.
L'océanologue François Sarano est l'auteur du livre « Le retour de Moby Dick » ou « Ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes ».
Autrefois, l'exploration, c'était découvrir des terres nouvelles, c'était découvrir de nouvelles espèces, c'était aller chercher des trésors. Aujourd'hui, l'exploration, c'est rentrer dans la tête des autres. Essayer de comprendre leur monde, essayer de comprendre leur monde propre, hein, j'entends bien ça, leur histoire propre. Et là, c'est un univers qui bascule, c'est aussi vaste que wow, l'espace. Comment comprendre des animaux qui vivent dans un monde différent, qui ont des sens différents, qui communiquent différemment et qui sont des personnes avec une identité forte, des singularités. Et là, mais quelle est leur histoire, comment ça s'est passé, etc. Et ben là, on a des sons, pchetons, on les voit, on peut les filmer, on peut les observer. Et chaque détail, c'est une porte ou une fenêtre sur mille interrogations. Donc c'est l'exploration de l'infini. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette exploration, en tout cas c'est comme ça que nous la vivons, Véronique et moi, c'est pour essayer d'ajuster mieux les égards envers les cachalots, envers les autres. On veut les comprendre pour essayer de leur laisser leur juste place et pour pouvoir vivre en harmonie. Et pour être plus en harmonie avec quelqu'un, ben, il faut savoir ce dont il a besoin, pas simplement pour survivre, mais pour vivre et s'épanouir. Par conséquent, il ne suffit pas que les cachalots aient des calmars pour vivre. Il faut qu'on leur laisse la place, une vraie place, pour que leur société s'épanouisse, pour qu'ils soient bien. Et nous serons mieux s'ils sont bien.
Fabienne Delfour, les cétacés sont des animaux sensibles et sujets d'une vie affective. Et parmi leurs expressions sensibles, il y a le chant des baleines à bosse. Est-ce qu'il y a une dimension émotionnelle à ce chant ?
Ce chant, il est uniquement produit par des mâles baleines à bosse. Hein, les femelles ne chantent pas. Alors, il aurait plusieurs fonctions. Et c'est là où c'est aussi intéressant parce que dans une visée très adaptationniste, les bioacousticiens analysent le chant des baleines à bosse comme pouvant être une manière de spécifier un territoire, d'écarter des compétiteurs et de séduire des femelles. Donc le chant, il a pour fonction de dire « je suis là, je suis prêt à me reproduire », mais, et c'est là où ça devient très intéressant, les philosophes de la nature et puis des éthologues qui s'intéressent par exemple aux émotions vont proposer une autre explication de ce chant. Ce qui n'a jamais été analysé dans ce chant, c'est peut-être la valence émotionnelle. Les émotions, c'est une façon de mettre du sens sur l'environnement. Et on vit le monde aussi au travers de nos émotions. Et là, peut-être pour la première fois, on a le témoignage émotionnel de la baleine à bosse. Est-ce qu'il y a d'autres cétacés qui en produisent ? Probablement, parce qu'on ne connaît pas tout. tout des cétacés. Il y a à peu près 80 espèces de cétacés. Donc, on a de quoi faire. Chez les cétacés à dents, il y a un cétacé qu'on nomme le canari des mers, qui est le beluga, et qui produit des sifflements qui peuvent sembler à l'oreille humaine assez mélodieux. Est-ce qu'ils sont organisés en chant? Je ne crois pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment cette organisation temporelle? Je ne pense pas.
Ça ouvre aussi le champ de l'esthétique de la part de l'animal et peut-être du plaisir aussi.
Du plaisir, de la créativité. Voilà, on est face à une altérité. Une altérité sensible avec une subjectivité. Donc on n'est pas face à un cobaye, juste avec un cerveau et un système nerveux qui est juste là pour apprendre. Et là aussi, ça brouille un peu les limites entre qu'est-ce que c'est qui est le propre des animaux humains et des animaux non humains. Ça montre qu'il y a peut-être une autre façon de porter une attention sur le vivant. Ça ouvre autre chose. On va avoir de nouveaux regards qui vont être posés sur les mondes animaux. Et on a besoin de ça. On a besoin de comprendre à quel point les animaux mènent des existences sensibles. Et donc, s'il y a un axe qu'on doit développer, c'est bien les émotions pour sauver la biodiversité. Et je milite pour qu'il y ait de nouveaux paradigmes scientifiques qui traitent des émotions, du partage émotionnel. Parce que nous, on a accès au monde par les émotions. Et je pense que les animaux, c'est la même chose. Donc, on partage ça, c'est-à-dire de vivre le monde au travers d'émotions. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut utiliser nos émotions aussi pour protéger cette biodiversité. C'est-à-dire, soit on est victime de cette éco-anxiété et se dire, voilà, on va dans le mur et avec ça, on ne va pas très très loin. Mais on peut se dire que dans ce milieu supposément silencieux, qu'est l'océan, il y a des milliards de vies animales, d'existences animales, qui créent aussi et qui vivent ces émotions-là. Et là, on rentre dans une autre émotion. Et faire ce pas-là, ça crée un certain émerveillement. Et utiliser l'émerveillement pour protéger la biodiversité, ça, c'est aussi une façon qu'on devrait utiliser pour essayer de protéger le vivant en général.
Merci à Fabienne Delfour, François Sarano, Jean-Luc Jung, Anne Settimelli, Lorraine Trudel, Véronique Buret et Stéphane Mifsud. Merci aussi à Stéphane Caillé et à Espace Mer, aux associations Longitude 181, Explore Préserve et Miraceti, à Hervé Glotin du laboratoire de bioacoustique de l'Université de Toulon et à Alain Barcelot. Lecture des extraits du Roubaïat de la mer de Saïed Egab, édition Le Port à Jauny, Lucie Grunstein. Prise de son, Hélène Langlois, Stéphane Foulon et Julie Garraud. Mixage, Antoine Viossa. Chargée de programme, Marie-Vonna Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau et Emmanuel Laurentin. C'était Comme un poisson sous l'eau. 4e épisode, Fraterniser avec les cétacés. Un documentaire d'Élise Gruot, réalisé par Agnès Catou. Les pages web sont sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.